Irène Omelianenko, bonjour.
Bonjour Mélanie Chalandon. Alors au menu cette semaine, théâtre, Afghanistan, médecine prédictive et France Soir. Jeudi, dans Collection Particulière, direction Perpignan, où Maurice Durosier, acteur au Théâtre du Soleil, dévoile les tribulations de sa famille sur 4 générations. Mercredi, dans Collection Enquête, retour vers le passé, quand Micheline Sanslivre de Mont et son époux, Pierre Sanslivre, sillonnaient dès 1965 l'Afghanistan pour une enquête anthropologique. Mardi, dans la collection Sur les lieux, nous nous rendons à la Pitié Salpêtrière où, mieux qu'une boule de cristal, le diagnostic présymptomatique vous révèle ce qui est écrit dans vos gènes.
Et aujourd'hui, Irène, portrait des années François, quand elles étaient pilotées par Pierre Lazareff.
Oui, autant dire une période où s'installera durablement le photojournalisme, comme en témoignera Jacques Boisset, des plumes mordantes ou romanesques de Joseph Kessel, Henri de Turenne et Françoise Giroux contribueront à une mise en récit du monde signée France Soir.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Gaston Leroux m'a certainement donné les conseils de base qui ont constitué mon éthique du journalisme. L'exergue d'une de ses œuvres m'avait ouvert le chemin de son cœur. C'était un livre sur la presse. Sur la page de couverture, il avait mis ces simples mots: « Ô mon métier, je t'aime ». Ce métier, il en parlait avec un extraordinaire bon sens. Le premier devoir d'un journaliste, disait-il, c'est d'être lu. Il me résuma ainsi le credo du journalisme: voir, savoir, savoir-faire, faire savoir. Je ne vais pas vous raconter toute ma carrière. J'ai appris beaucoup de choses, et aux États-Unis, puis ensuite en Angleterre, que je gagnais en 1943 pour poursuivre la même tâche. Je revins à Paris au lendemain de la libération. Pierre Bénard, René Dunant, Maurice Felu me demandèrent de me joindre à l'équipe de défense de la France, et c'est ainsi que naquit France Soir.
La salle de l'opéra est frémissante. Yehudi Menuhin, de passage à Paris, vient donner un concert, son premier concert depuis 6 ans. Il nous a raconté ses randonnées à travers le monde. Pendant 6 ans, Menuhin n'a cessé de donner des concerts au profit de ceux qui combattent pour la libération du monde. Charles Munch, notre grand chef, paraîtra tout à l'heure avec Menuhin. Les voici. Et d'abord, la Marseillaise.
France Soir, portrait d'un âge d'or du journalisme. À une époque marquée par le bégaiement lénifiant d'une info en continu, la presse peut sembler parfois un reliquat du monde ancien. La figure du journaliste est de moins en moins celle de cet historien de l'instant décrit par Albert Camus dans les colonnes de Combat en 1945, l'instant ayant eu raison de l'histoire. Ainsi, revenir sur ce grand chapitre de l'histoire des médias que furent les années Lazareff de France Soir entre 1949 et 1972, c'est revenir à une autre conception du journalisme qui doit autant à Albert Londres qu'à Jack London.
Jamais Marseillaise ne fut enlevée avec tant d'art, de sûreté, d'allégresse et de joie. Menuhin débute par le concerto de Mendelssohn.
Issu du premier journal de la résistance, Défense de la France, fondé en juillet 1941 par Robert Salmon et Philippe Vianney, avant d'être dirigé dès 1949 par Pierre Lazareff, France Soir devint le premier quotidien national tirant dès 1954 à plus d'un million d'exemplaires sur 5, 6, voire 7 éditions par jour jusqu'en 1970. Les meilleures plumes en fourniront les reportages, parmi lesquels celles de Henri de Turenne, Joseph Kessel, Philippe Labro, Lucien Baudard ou Françoise Giroux. Et ces photographes, comme Jacques Boisset ou André Grassard, contribueront au milieu des années 60 à la reconnaissance du métier de photojournaliste. France Soir fut une formidable machine à informer, internationalement reconnue. La chronique audacieuse de la France d'après-guerre, autant que le Figaro incarna la France de la Belle Époque et Libération celle d'après 68. Henri de Turenne, grand reporter.
Alexandre Tartat, qui était réalisateur à la télévision, c'est lui qui enregistrait les discours de De Gaulle. Et alors, il me racontait que La première fois, il dit à De Gaulle, en général, est-ce que vous pouvez me faire un essai de voix? Alors De Gaulle dit, bon, très bien. Alors il dit, la France, ça va? Alors, le succès de François, il y avait deux journaux dans François. Il y avait le journal populaire, La Page Une, avec les grands titres. Entre nous, je ne veux pas diminuer son mérite, mais Lazareff avait passé 4 ans en Amérique, et finalement, il a utilisé toutes les recettes américaines. Les grands titres, les photos, la presse à sensation américaine. Les potins de la commerce et le gossip column. Et la dernière page, c'était les cartoons, les dessins, les bandes dessinées, deux bandes verticales, les amours célèbres, le crime ne paie pas. Enfin bref, ça c'était au fond le journal qui était cher au cœur de Lazareff, je pense. Parce que Lazareff, à l'origine, était un homme de théâtre plutôt, hein. Il faisait des chroniques de théâtre. Il avait été le secrétaire de Mistinguette. Et c'est lui vraiment qui était l'âme de cette partie-là. Et à l'intérieur, il y avait l'équivalent du Monde. C'était vachement sérieux. C'était fait par Charles Gombeau, qui lui était un journaliste traditionnel. Enfin, on disait que son rêve, c'était de faire le New York Times. Et alors là, François, à l'époque, avait 17 correspondants à l'étranger quand le Monde n'en avait que 7. C'était vraiment la grande machine. Il y avait 400 rédacteurs, une rédaction de 400 personnes, des photographes, des prix Goncourt. Il y avait 2 prix Goncourt qui réhaitaient le journal. Et il y avait Kessel, il y avait des jours célèbres comme ça.
Que vous croisiez.
Il y avait Baudard, il y avait Lavrault, il y avait... Enfin, je ne veux pas les citer tous, parce que...
Qu'est-ce que vous voulez faire?
Et puis voilà.
Philippe Lavrault, grand reporter.
Donc il me reçoit et il me dit donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Et je lui dis, mais moi je veux être grand reporter. Et il me rit, il m'éclate de rire. Il me dit, mais écoutez, jeune homme, pour être grand reporter, il faut d'abord avoir fait un peu de terrain, il faut d'abord franchi un certain nombre d'étapes. J'ai fait du terrain pour Marie-France, je suis allé aux quatre coins du monde, j'avais fait un très gros reportage sur Hollywood pour Marie-France. Donc j'avais quand même du crédit, j'avais un gros dossier. Mais il me dit, écoutez, le grand porteur, ça se gagne pas comme ça, c'est pas vrai. Ben, je dis, si, je voudrais absolument avoir ce titre. Il me dit, bon, écoutez, très bien, vous prenez le risque. Moi, je vous engage comme grand porteur, mais je vous promets pas la lune. Hein. On verra comment ça se passera. Donc je rentre à François, grand reporter, et ça fait éclater de rire la moitié de la rédaction, en disant qu'est-ce que c'est que ce gamin dans son imperméable blanc, là, parce que je jouais au grand reporter, avec même jusqu'à porter l'imperméable des grands reporters de l'époque, vous savez, le Barberis blanc, enfin l'imper de Humphrey Bogart. Bien. Et j'ai vécu pendant 6 mois, tenez-vous bien, enfin ou 3 je crois, un véritable exil intérieur. C'est-à-dire, j'arrivais le matin à François, je m'asseyais sur un coin de bureau, j'avais pas de bureau ni rien, dans la grande salle de rédaction, et là, je faisais rien. Parce que personne ne me demandait quoi que ce soit. Parce qu'ils considéraient que c'était une blague que ce jeune homme arrive dans François, adoubé par le grand patron, par celui qu'on appelait le petit homme, sans crédit, sans véritable justification. Et donc, il me faisait subir une sorte de test pour voir comment je tiendrais le coup. Et j'arrivais, je lisais les journaux, je prenais des notes, je bavardais avec 2-3 personnes qui n'étaient quand même pas toutes hostiles à ma présence. Et puis finalement, au bout de 3 mois, je crois que Robert Villers, qui était le patron du service étranger, a dit « Ah ben tiens, ça c'est un sujet qu'on pourrait proposer à Labro. » Et on m'a envoyé directement faire un reportage en Algérie, tenez-vous bien, en civil, là, en journaliste, pour assister, pour raconter le premier mariage entre un bidas entre un soldat français et une Algérienne. C'était exceptionnel à l'époque, exceptionnel. Ça se passait dans un bled perdu de l'Oranais, Donc j'étais là-bas, j'ai vu comment ça se passait, j'ai senti le vent de la guerre, j'ai rencontré des tas de gens, je me suis arrêté à Alger. Enfin, et quand je suis rentré, j'ai fait une série d'articles sur ce couple et sur cet endroit et ce que ça signifiait. Et ça m'a valu enfin la reconnaissance, à peu près, des vieux de la vieille.
Jean-Claude Lamy, journaliste.
François couvrait toute la vie nationale et la vie internationale, avait des correspondants dans toutes les capitales. Il y avait vraiment un tissu François qu'on retrouvait absolument partout, donc avec des plumes extraordinaires. Des grands reporters comme Joseph Kessel ou Lucien Baudard ont suivi leur reportage comme des feuilletons. Il fallait écrire ces articles, surtout les reportages, les grands reportages, les faits divers, comme une histoire. Il fallait un début, un milieu, une fin, avec des rebondissements, avec faire que le lecteur lise ça comme il pourrait lire un roman photo, en quelque sorte. Mais voilà ce qu'il fallait faire. Il fallait intéresser le lecteur, il fallait être comme Gaston Leroux, Rouletabille. Donc ce petit journaliste que l'on voit courir à travers les événements. Lui, Leroux, a été un grand journaliste au Matin. Il était un exemple aussi journalistique. Et Pierre Lazareff, qui avait connu cette époque, pensait que le journalisme de Leroux était un journalisme qu'il fallait appliquer à la lettre dans la presse populaire. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie.
Pierre Lazareff, êtes-vous conscient de votre puissance ?
Non. Non. Vous savez, on m'a posé une fois cette question, je crois que j'ai répondu que je devais être plus puissant que je ne le pensais, mais beaucoup moins que les gens ne le croyaient. Je crois que c'est ça la vérité.
Vous êtes toujours...
j'y pense jamais, vous comprenez, entre nous deux, Jacques, je m'en fiche. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse vraiment, vous le savez que c'est vrai, c'est d'informer. Et je crois que là, je fais, en informant, j'accomplis ce qui est à la fois ma mission, mon métier, mon plaisir.
C'est comme un roi, il y a une cour, c'est toujours pareil. Il n'est pas au même étage que vous, il est au deuxième, nous on est au premier. On monte par un petit escalier intérieur, et là il y a Madame Marez, c'est le seul nom dont je me souviens, c'était la grande patronne des Cerbères, qui vous donne ou pas le feu vert pour pousser la porte du patron. Mais en même temps, il y a tous les matins, à une certaine heure, je crois que c'était vers midi, je ne sais plus, ce qu'on appelait le chocolat. Là, c'était parce que ce Pierre aimait prendre du chocolat, c'était devenu le mot pour définir la réunion des chefs de service, des responsables, et quand vous aviez la chance d'être admis dans ce cercle de journalistes. Moi, mon grand moment, mais on parle de François, donc je vous parle de moi, à François, ça a été le barrage de Fréjus. Malpasset, qui a inondé tout Fréjus et tué, je crois, une 300 personnes. Enfin, ça a été le gros fait divers de l'époque. Enfin, plus qu'un fait divers, l'événement majeur de l'époque. Et là, j'ai vu et j'ai vécu la machine François. C'est-à-dire que je t'ai réveillé à 1h du matin, je ne sais plus, et on m'a dit « Tu viens à la rédaction, viens tout de suite ». Bon, vous savez, à l'époque, on ne discute même pas, hein, et on est même près trop content d'être sollicité. Donc j'arrive par hasard, et là, dans les couloirs, le fameux couloir du premier étage, où on se retrouvait tous pour discuter, pour échanger des sujets, des idées et tout, il y avait tout l'état-major et Pierre qui distribuait les rôles. C'est-à-dire qu'il avait affrété un avion, à l'époque ça se faisait absolument pas, il n'y avait pas de médias puissants qui affrètent un avion. Lui, c'était la puissance absolue, hein. Et puis il ne s'agissait pas de regarder à l'argent ou la dépense. Donc il avait affrété un avion dans lequel il allait mettre une douzaine d'envoyés spéciaux, plus les photographes. C'est-à-dire qu'il y avait la task force de Lazareff et de François qui débarquaient pour couvrir, entre guillemets, un événement majeur. Qui a renversé l'opinion publique. Et c'était gravissime, c'est une tragédie, et c'était très spectaculaire, si j'ose dire. Donc moi, je suis là, et Pierre dit, bon, ben, Labro, vous vous ferez... Parce qu'il fabriquait des teams, il fallait travailler à deux. Hein. Et il dit, Labro, vous travaillerez avec Chaput. Chaput, Jacques Chaput était à l'époque un des plus grands reporters de faits divers, avec des réseaux dans la police, dans les services de renseignement, et avec une faculté extraordinaire de comprendre ce que voulait le public et ce que disait le public. Et Chaput, donc, quand Lazarev, dans ce couloir-là, à 3h du matin, dit « Vous allez travailler avec Labro, ou Labro va travailler avec vous », Chaput dit « Oui, pas question, je vais pas travailler avec ce bleu-bite, ça va pas, Pierre ». Et Pierre lui dit « Non, c'est comme ça, c'est justement parce qu'il est jeune, ça fera très bien, vous ferez un très bon couple, vous inquiétez pas ». C'est comme ça, et c'est pas autrement, on s'est tous retrouvés dans un avion, et là on est tous partis pour Nice, où on a atterri, et là on loue des bagnoles et on part. Et on part pour la région de Fréjus, pour couvrir l'événement que j'ai couvert avec Jacques, donc, à raison de 4 papiers par jour. Parce qu'il y a ça aussi, il y avait 4 ou 5 éditions, plus, à cause de la magnitude de l'événement, plus, évidemment, des éditions spéciales. Et donc, il n'était pas question de reprendre, comme font les chaînes info télé aujourd'hui, reprendre ce qu'on vous a dit un quart d'heure avant. Donc, chaque fois, c'était un papier différent, au point même qu'on les écrivait pas. On les dictait en direct au sténo. Il n'y avait rien d'autre que votre agilité, la machine à écrire portable, ouais, la petite machine Olivetti, hein, et puis votre stylo et du papier, et surtout, trouver un téléphone, parce que c'était le grand combat, c'était un endroit d'où on pouvait appeler, parce que vous pensez bien, il n'y avait pas que France Soir sur le coup, hein, et toute la presse française et même internationale. Et Chaput et moi, on avait littéralement affermé un téléphone dans un tout petit hôtel qui était sur le comptoir de l'hôtel, vous savez, ces gros appareils noirs, hein, avec un cadran, et on l'avait acheté, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on avait donné la pièce au concierge ou au gardien de ce tout petit hôtel, et c'était notre téléphone. Donc voilà, France Soir à l'époque, c'est ça. France Soir, c'est une machine très bien huilée, avec tous les moyens du monde, et avec des très grands journalistes. Et on est en compétition avec tout le monde, mais en même temps, on a cet avantage qu'on a plusieurs éditions, et que quand il se passe quelque chose, en France, à l'époque, on descend dans la rue pour acheter France Soir à la criée. Il y a les types qui se baladent, mais demandez France Soir, la dernière édition, Fréjus, les envoyés spéciaux. Il faut savoir qu'aussi, la puissance de François était telle qu'ils avaient des bureaux presque partout. Au Japon, à Rome, bien entendu, en Italie, bien entendu à Moscou, avec Michel Gordet, qui était un des grands bonhommes aussi de votre époque, et bien sûr à New York et à Washington. Donc quand vous arriviez, vous, mandaté par Lazarev pour couvrir un sujet, le bureau local était à votre disposition. Vous aviez un endroit où poser vos fesses, où lire les journaux, prendre des notes, passer les coups de téléphone et faire organiser par la secrétaire du bureau votre déplacement ailleurs.
Il y avait le tirage quand François vendait à 1 million d'exemplaires.
Jean-Claude Lamy.
Évidemment, il gagnait de l'argent. Il y a de la publicité aussi. Pierre Lazareff était très lié avec Marcel Bleustein-Blanchet, patron de Publicis. Et la publicité était importante dans France Soir. Nous, les journalistes, à l'époque, on avait beaucoup de moyens. Quand on partait en reportage, on avait de l'argent, on louait une voiture pour un mois, on descendait dans les palaces. On avait de l'argent et Pierre Lazarev voulait que nous soyons avec les gens dont on parlerait. Si je vais raconter l'histoire d'un prince saoudien qui descend au Majestic, il fallait que j'occupe une chambre voisine de la sienne. Et il fallait pas que j'habite le petit hôtel à côté de la gare. Il fallait qu'on me voie à la terrasse de ce grand hôtel, qu'on me voie prendre les repas avec les gens que j'allais interviewer. Et à l'époque, on partait avec de l'argent liquide. Il y avait une caisse à François où on demandait une certaine somme et on nous la donnait en argent liquide. Et on partait avec nos billets de banque dans la poche. Et quand on n'avait plus d'argent, on téléphonait et on nous envoyait un mandat.
C'est absolument évident, par exemple, que pour
Pierre Lazarev,
la grande masse des gens, la guerre de Corée, ça sera toujours cette photo prodigieuse de ce petit enfant coréen perdu, les bras ouverts et pleurant sur une route seule et solitaire. C'est ça qui symbolise pour la plupart des gens la guerre de Corée. Les événements de Hongrie, c'est une photo prise dans la rue sous un bec de gaz. C'est parce qu'ils ont été attirés et intéressés par les images qu'ils voyaient qu'ils ont eu le courage de lire, alors que d'habitude, ils n'en avaient pas ni l'envie ni l'occasion.
Le photographe, imaginons que nous partions sur un crime, par exemple, l'affaire Dominici.
Henri Zlotine, journaliste.
Le photographe, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va photographier la ferme de la famille Dominici. Il va essayer d'avoir les portraits de la famille qui très vite sera soupçonnée d'avoir participé au crime. Il va photographier la voiture de la famille Drummond. C'était une famille d'Anglais qui s'était fait assassiner. Ça, c'est son boulot de photographe. Le journaliste, lui, il va faire son enquête avec la police, si elle est là et si elle veut bien lui parler. Et elle va essayer d'entrer en contact avec toute la famille Dominici. Qui est quoi? Quel est leur caractère? Comment ils s'entendent? Est-ce qu'elle trompe son mari? Est-ce qu'elle a une liaison? Enfin, vous voyez, c'est bien partagé entre ce que doit montrer le photographe pour qu'on retrouve dans François l'édition la plus proche possible les photos où le drame s'est produit. Et le texte que je vais recueillir en allant parler aux uns, aux autres, aux témoins, et voilà. C'est un travail partagé. La photo a pris beaucoup d'importance et elle a pris de la classe aussi. Elle est devenue plus recherchée, plus... Je vous ai parlé d'un moment dans la presse où la photo montre la ferme Dominici, montre la voiture accidentelle, montre. Elle cherche pas autre chose que ça, à montrer ça. Bon. Ensuite, d'abord parce qu'il y a eu des grands photographes, elle a pris une autre dimension. À elle toute seule, parfois, elle en dit plus que l'article qui pourrait s'appuyer sur la photo.
Demandez la presse du soir, le crime de la rue de l'Ursine, tous les détails. Demandez la presse du soir, dernière édition, la disparition de Lulu, crime ou suicide. Demandez la presse du soir, dernier détail.
Ça vous intéresse? Mais pas vous?
Parlons de la mort de Nasser. C'était pour moi un événement considérable. Je suis parti avec le Premier ministre. Le matin, on est parti en avion au Caire.
Jacques Boissé, photographe.
Et on est arrivé, et là, dans une espèce de pagaille incroyable, où il y avait tout le banc et l'arrière-banc des chefs d'État du monde entier. Attendez, il faut que je retrouve ce numéro. Le François. Tiens, voilà. Nous sommes arrivés sur l'île de Gizeh, qui est l'île du Caire, où on avait donc mis le catafalque et où tous les membres éminents du gouvernement étaient tout autour, et tout le monde pleurait, s'accrochait désespérément au cercueil. C'était incroyable d'ailleurs. Tout ça sans aucune organisation. Et puis là, on collait au cercueil. Je suis arrivé, je suis un des seuls peut-être à avoir fait cette photo, à être à quoi, à un mètre du cercueil. On n'était pas, j'étais pas sur un praticable, ni monté sur une chaise, ni rien du tout. C'était à bout de bras. Là, j'ai dû faire, ce jour-là, j'ai fait 12 pellicules de 35 vues.
Pour combien d'éditions?
Pour toutes les éditions du journal. De tout ce qui était fait là, j'ai dû publier, il a dû y avoir 6 ou 7 photos de publiées. On est parti le matin, et le soir, on était de retour à Paris. La photographie du cercueil, elle a duré pratiquement pendant toutes les 5 éditions. On trouve à l'intérieur justement une page dédié à ça, à cet événement-là, qui explique vraiment l'événement, proprement dit, décrite par Eugène Mannoni, le journaliste qui m'avait, avec lequel j'étais parti dans l'avion du Premier ministre.
Là, en fait, ce sont trois photos qui quasiment occupent la totalité de la page, en tout cas de la moitié de page, mm-hmm. pour un article qui en occupe à peine le dixième. Donc c'est quand même, ce sont les trois photos qui vont donner l'information et produire l'histoire, le récit.
Oui, puisque sur ces trois photos, d'une part, on va montrer les délégations, Chaban-Delmas, l'empereur Haïlé Sélassié, et puis une autre photo encore, Kadhafi et Arafat, se tenant par la main, Arafat un revolver à la ceinture, au milieu de la population, de la foule, et puis on a une troisième photo de la tentative de départ du cercueil, et on voit bien l'ambiance complètement délirante.
Donc là, vous, en tant que chef du service et avec vos collaborateurs, vous décidez, un, d'une photo assise, statique, des chefs d'État, deux, un symbole très fort, Kadhafi et Arafat se tenant quasiment par la main, Arafat avec son revolver, qui est au centre de la photo, qui est quasiment le punctum, c'est-à-dire, on voit d'abord ce revolver, et trois, une photo plus de surplomb, de foule, qui est comme une espèce de recul, donc on a une histoire, la diplomatie, le caractère conquérant, l'avenir.
Oui, l'avenir.
Et l'émotion, le
Exactement.
Alors, chaque photographe, bien entendu, lorsqu'il revenait, sauf s'il était en reportage, c'est-à-dire s'il n'était pas sur place, s'il n'était pas revenu avec ses films, chaque photographe choisissait les photographies qu'il jugeait les meilleures. On faisait... Alors, pour aller beaucoup plus vite, quand il fallait aller vite, on choisissait sur négatif.
André Grassard, photographe.
C'est-à-dire qu'on ne faisait même pas de planche de contact. Donc là, il y avait une habitude à avoir, mais ça, on l'acquiert assez rapidement. Donc, on choisissait sur négatif, et les photos étaient même parfois tirées mouillées. C'est-à-dire qu'on ne séchait même pas le film. On mettait le film dans un passe-vue, et sur l'agrandisseur, il était tiré mouillé, ce qui permettait de gagner du temps.
Notre record de vitesse a été établi pendant les Jeux Olympiques de Melbourne. Une photo a pu être utilisée à Paris, dans notre journal, 12 minutes après avoir été prise aux antipodes.
Si vous le voulez, je peux vous raconter l'histoire des Jeux Olympiques de Grenoble. Alors ça a été une aventure fantastique, d'abord parce qu'on est parti aux Jeux Olympiques pour la victoire française, qui, lui, était le maître de la neige. On avait une équipe de France qui était faite pour gagner. Donc on est parti, nous étions 5 reporters photographes, j'étais le responsable de l'équipe. Nous avions avec nous 2 tireurs labo. Nous avions un ingénieur Belin. Alors, la course, prenons par exemple la descente. Killy partait le dernier. Nous avions un photographe qui était au départ. Nous avions un photographe qui était à mi-parcours. Et nous avions un photographe qui était à l'arrivée. Chaque photographe faisait 2 photographies de chaque coureur, susceptible bien entendu de gagner. Ensuite, nous avions un moniteur de ski on avait obtenu l'autorisation qu'il descende sur la piste derrière le dernier coureur. Il récupérait les 2 films de chaque photographe, celui du haut, celui du mi-parcours, et en bas, il récupérait également le film du dernier, c'est-à-dire celui qui avait fait l'arrivée. Il y avait de garer à 150 mètres la voiture labo du journal. On développait et on envoyait 2 photographies du vainqueur. Ces 2 photographies étaient transmises par Bellino. C'était un système qui passait par une ligne téléphonique. L'ensemble, c'est-à-dire le moment où Killy est arrivé et a franchi la ligne de départ, et le moment où la photographie est arrivée à Paris, sur le bureau du rédacteur en chef, il s'est passé 30 minutes. C'était un record absolu. Et ça veut dire que tout le journal était prêt et qu'il a été en vente, parce que autant que je me souvienne qu'il y est arrivé vers 1h15 ou 1h30, je ne me rappelle pas, 1 heure après son arrivée, le journal était en vente sur les boulevards, sur les Champs-Élysées et partout, avec la victoire.
Citizen Lazarev, ça vertu numéro un, je crois, c'est...
Philippe Labro.
L'intuition du grand public. Et le grand public, c'est tout le monde. Hein. C'est aussi bien l'ouvrier, le manœuvre, que le chômeur ou que la femme de ménage ou que le cadre moyen supérieur. Et ce public-là, pour lui, il n'y a pas de différence. Donc, son intuition, son don, c'était de savoir que de l'ouvrier au cadre supérieur, il y avait une certaine approche, une certaine façon de présenter l'info.
Que lui reprochaient ses ennemis ?
Oui, il lui reprochait que de faire un journal trop « guillemets sensationnel », fermez les guillemets, de trop accorder d'importance aux potins, c'est lui qui invente les potins de la commère, les fameux potins de la commère, qui n'étaient que l'aïeul, le pionnier du buzz hein, d'aujourd'hui, hein, et des journaux people, c'est pareil. Il a tout démarré. Hein. D'une certaine manière, François faisait de l'info au continu. Donc, d'une certaine manière, François était l'ancêtre de iTélé, BFM et autres produits. Bon, il lui reprochait donc ça, c'est-à-dire de faire un journal, non pas de concierge, mais c'était ce que les méchants disaient de lui. Et puis, il lui reprochait aussi beaucoup, et ça, effectivement, on peut lui reprocher, d'être non pas serviteur du gouvernement, mais d'être très... comment dirais-je, de ne pas critiquer trop... le pouvoir en gestation, quel que soit le pouvoir, quel que soit le Premier ministre ou le Président de la République, Lazareff était plutôt, il se conformait à son idée de la France et que son journal et ses journaux, je n'oubliais pas qu'il est le patron d'un groupe de presse, il y a Paris Presse, il y a le Journal du Dimanche, sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, il y a Elle, dont sa femme Hélène a fait une institution, la presse magazine, il considérait que son groupe n'était pas au service de la France ou du président de la République, mais néanmoins lui devait respect et donc non pas une information partiale et partisane, mais néanmoins favorable.
Pierre Lazareff.
Il y a plus de 15 ans que j'ai écrit à mes collaborateurs pour leur dire « Faites attention, il faut repenser tout ce qu'on vous a appris et tout ce que vous savez, car nous n'apportons plus jamais de nouvelles. C'est la radio qui est là pour apporter les nouvelles. » Avant, l'aurais-je écrit, quand un événement se passait, les gens descendaient pour acheter le journal. Maintenant, ils rentrent chez eux pour l'entendre ou pour le voir. Ceci aussi nous a imposé une présentation différente de nos journaux.
Nous avons vu la première page de François il y a 20 ans, nous connaissons celle d'aujourd'hui. Comment sera celle de dans 10 ans, par exemple?
Vous savez, je répondrai comme président de la République que je ne suis pas Madame Soleil. Et je vous y répondrai d'autant plus volontiers que je n'en sais rien. Ça dépendra de beaucoup de choses. D'abord de l'évolution à nouveau de l'audiovisuel, qui me passionne, dont je m'occupe beaucoup, car si j'ai pendant longtemps voulu consacrer une partie de mon existence à la radio, puis à la télévision, c'est jamais pour trahir la presse écrite, mais parce que je crois, je vous le répète, que tout va ensemble, eh bien il se peut que d'ici 10 ans, de nouvelles langues d'information, il se peut, je suis sûr, que d'ici 10 ans, de nouvelles langues d'information vont apparaître, avec les vidéos cassettes, avec la télévision par câble, etc. Tout ça est aujourd'hui encore imprécis, mais on sait que ça sera d'une importance considérable. Il est possible aussi que la presse écrite, qui souffre affreusement depuis la guerre, on n'a rien inventé, en tout cas pour les grands journaux, qui permettent une transformation technique importante.
François a atteint son sommet en 1959 avec plus de presque 1 400 000 exemplaires, 1959. Et curieusement, 1959, c'est l'année
Jean-Claude Lamy
de lancement de l'émission de télévision 5 colonnes à la une. Pierre Desgros, Pierre Lazareff, Pierre Dumayet, Igor Barel. La grande émission d'actualité qui était un François en image. On était venu chercher Pierre Lazareff pour créer cette émission imaginée par Frédéric Rossif et Jean Darcy à l'époque. Et les gens annulaient souvent un dîner pour voir cinq colonnes à la une se retrouver dans leur poste, devant leur poste de télévision et suivre cette émission qui est devenue aussi populaire que le journal. Et même plus populaire que le journal, puisque le journal a commencé à perdre des lecteurs au fur et à mesure des années de cinq colonnes à la une. Pierre Lazareff a compris à ce moment-là que la télévision était le média qui allait prendre toute l'importance et que la presse écrite populaire comme France Soir et d'autres journaux, l'Aurore, le Parisien Libéré, Paris Jour, et puis les grands journaux populaires comme France Dimanche par exemple, allaient perdre forcément des lecteurs et qu'il y aurait plus tard, mais bien plus tard, après lui, une autre presse. Mais il ne voulait pas penser à cet avenir. Et il avait dit à un de ses amis, nous n'aurons pas de successeur. Il imaginait que la presse allait se transformer et se transformera d'une manière régulière à travers les décennies. Et Lazareff n'a pas insisté à cette transformation, mais il savait qu'elle allait arriver.
Vous êtes parti en quelle année de France Soir ?
Je ne sais pas, ça s'est effiloché. Parce que...
Henri de Turenne.
En 63, j'ai suivi De Gaulle à Djibouti. Parce qu'il faisait escale à Djibouti. Il y a eu des incidents, des bagarres et tout. Il y a même, on a tiré, il y a eu deux morts, je crois, deux ou trois morts. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver la poste. Vers minuit, j'appelle le journal. Enfin, j'ai mon papier, je tombe sur un secrétaire de rédaction. Il dit, ah Henri, ah, c'est toi, qu'est-ce que tu fous? Je lui dis, je suis à Djibouti. Oh, qu'est-ce que tu fous? Je lui dis, écoute, t'as pas lu les dépêches, non? De Gaulle, il y a des tués et tout ça. Il me dit, ah merde, fais court, demain c'est le tiercé. Alors je suis rentré et puis j'ai dit, maintenant je pars plus. C'était la fin. C'était vers la fin du journal. C'était fini parce que on a essayé désespérément de multiplier les éditions. Alors, le problème, c'est que Lazareff s'est sauvé personnellement avec cinq colonnes à la une. Alors, il a eu l'impression de se sauver, mais il ne sauvait pas son journal. Et ils essayaient désespérément de modifier François. Or, c'était perdu. L'arbre, quand un arbre est fichu, il faut en planter un autre à côté.
Mais en fait, il se sauvait à la télé qui, justement, a participé à la, à
ben
la,
oui, il à participait la fin de cette presse-là. À l'assassinat de son journal.
C'est ça.
C'est sûr. Ben, moi, quand j'ai commencé à France Soir, il se vendait encore à la criée, à la sortie du métro. De Gaulle est mort, De Gaulle est mort. Et on achetait parce que... Mais à partir des années... Quand la télévision est survenue, c'était fini. Et il y a le transistor aussi. Et il faut se vendre sur le commentaire. D'ailleurs, ça a été le succès des news magazines. Les hebdomadaires se sont multipliés. L'Express, Le Point, les échos, la presse économique. Mais France Soir, le journal d'information générale, c'était fini. Alors, en 60, je me souviens qu'en 60, c'était le mariage de la princesse Margaret, la sœur de la reine. Bien entendu, France Soir avait quatre envoyés spéciaux à Londres, etc. Et nous étions... Moi, j'étais à Paris, et... quelqu'un a dit « Ah, mais on va louer une télé. » On a loué une télé. On n'avait pas une télé, parce que la télé, c'était l'ennemi. On n'avait pas une télé à François. On est allé en louer une pour l'occasion. Et on a mis au service étranger. Bientôt, il y a eu un grand rassemblement autour du poste. Et Robert Villers, moi, j'étais devant le poste, et c'était moi qui avais l'idée de le louer. Alors, Robert Villers me dit « Mince, Henri, fais le papier.
Vas-y.
Devant le poste.
Devant le poste. J'ai fait le papier de la première édition. Alors que j'étais sur les genoux de Margaret, alors que les pauvres, nos pauvres correspondants étaient dehors de l'église, ou au fond de l'église, ils ne voyaient rien. Et alors Lazare est arrivé aussi. Ah, puis il a dit, c'est merveilleux cette petite boîte en bois, vous ne trouvez pas? J'ai dit non, c'est le cercueil de notre métier. J'ai dit ça, je me souviens, en 1960.
François, 9h du soir, une heure creuse au journal. Les collaborateurs de permanence finissent de dîner. Dans le couloir du premier étage, mal éclairé, Pierre Lazareff, frileux, avançait à petits pas. Le souffle court, blême, il marchait en titubant. Arrivé au bout du couloir, il s'appuya à la cloison. Et c'est alors qu'il m'aperçut. Je fus témoin, comme tous ceux qui l'approchaient, de cette faculté extraordinaire qui lui permettait de masquer la maladie en retrouvant miraculeusement un visage d'enfant malicieux. Par quel courage surhumain parvenait-il à faire presque oublier le cancer qui lui rongeait inexorablement le corps? Si je ne l'avais pas surpris en perdition dans ce couloir coursif de cet énorme navire dont il était le capitaine, j'aurais pu le croire encore capable de vivre centenaire. Pierre, Pierrot les Bretelles, comme l'avait surnommé maître René Floriot, me tendit une main fiévreuse. Sa déesse à injection, moteur tournant, l'attendait avec au volant Maurice Coudert, un de ses chauffeurs. La célèbre voiture noire, coiffée d'une antenne de télévision, elle avait fait bien des envieux et est devenue aujourd'hui le symbole de la réussite dans la presse parisienne, sortit doucement du 98 rue Réaumur. Pierre Lazareff, tapi dans le coin gauche de la banquette arrière, releva ses lunettes sur le front d'un geste familier. Je ne le reverrai plus. Quelques jours plus tard, il entrait une ultime fois à l'hôpital américain de Neuilly. La vision de cet homme blessé à mort, s'arrachant à son journal, m'avait bouleversé. Dans ce couloir, zone frontière entre la rédaction et la direction, Pierre Lazareff, usant ses dernières forces, donnait l'image de ce que peut être une fin atroce. Aucune épaule pour s'y appuyer. Il s'en allait seul, lui qui avait peuplé sa vie d'amis qu'il voulait croire sincères. Pierre Lazareff n'était pas fait pour être abandonné. Et il s'étonnait sans doute, dans ce couloir aveugle, de cette brusque absence. C'était donc cela, Citizen Kane, géant du journalisme, un petit homme frêle, un peu essoufflé, mourant. Il y avait tant de force dans sa faiblesse que je reconnus en lui l'homme de la légende.
Pierre Lazareff meurt en 1972, mais peut-on pour autant dire que les raisons du déclin de François sont uniquement liées à la disparition de son initiateur, de son géniteur?
Oui, je crois quand même qu'un journal, c'est un patron. C'est un homme qui conduit une rédaction. Et Lazareff était tellement impliqué dans la vie du journal qu'après sa disparition... Il avait d'ailleurs dit à maître René Floriot, qui était venu lui rendre visite à l'hôpital américain peu de temps avant sa disparition, « Ah, René, si tu pouvais me faire condamner à vie !» Et il voulait être là jusqu'au bout. Il recevait ses rédacteurs en chef sur son lit d'hôpital. Ses secrétaires venaient recevoir ses instructions. Mais Pierre savait qu'il allait partir et qu'en partant, il emmenait le journal avec lui.
Est-ce que dans une certaine mesure, le rapport de Pierre Lazareff, et donc du quotidien qu'il dirige, François, avec le monde politique, n'est pas aussi l'une des raisons de ce déclin?
Oui, il faut dire que Pierre Lazareff avait beaucoup d'amis dans tous les secteurs, dans tous les milieux,
et dans le milieu politique, par exemple. Et il avait des relations très fortes avec Jacques Chaban-Delmas, avec Georges Pompidou, par exemple. Et quand Chaban-Delmas a été inquiété par sa feuille d'impôt, ou que Pompidou a vécu, mal vécu l'affaire Markovic, à François, Pierre Lazareff ne voulait pas qu'on en parle d'une manière négative vis-à-vis de ses amis. Donc, évidemment, c'est pas ce que peut attendre le lecteur, les révélations qu'on peut lui apporter. Il y en avait, mais il fallait atténuer les informations négatives concernant ses amis.
Est-ce qu'il n'y a pas eu un rendez-vous manqué avec mai 68 qui marquerait là une sorte de tournant pour le journal?
Certainement. Pierre Lazareff a eu peur de mai 68 parce qu'il détestait l'anarchie. Il craignait la pagaille. Il n'aimait pas ce qui se passait comme ça. C'est une sorte de révolution. En fait, c'était surtout une évolution des mœurs. Il n'a pas vraiment vu ça, et sa femme, Hélène Lazareff, non plus, à elle. Il y a eu des contestations dans les rédactions, les gens voulaient discuter, on a discuté d'ailleurs au sein de la rédaction. Mais Pierre, moi j'ai couvert les événements de mai 68, et j'ai même à ce moment-là vendu François, parce que comme la distribution était arrêtée par les grèves, il n'y avait plus de diffusion du journal, Pierre Lazareff avait demandé à ses collaborateurs non seulement de couvrir l'information, de faire des papiers, mais aussi de vendre le journal. Je me souviens, avec ma voiture, je mettais en bas d'un carrefour, j'avais des piles de François que j'essayais de vendre. Et croyez-moi, c'est difficile de vendre un journal, et là, ça, on s'en aperçoit, vendre à la criée François. Mais mai 68, ça a été une sorte de rupture dans la vie de tous les jours. Les gens se sont mis à se parler entre eux. Il y a eu des relations directes. Et ça, ça aurait dû plaire à Pierre Lazareff. Malheureusement, il n'a pas compris la force de ces événements. La fuite de Gaulle à Baden-Baden l'a effrayé. Quand il y a eu la grande manifestation des Champs-Élysées, la grande manifestation gaulliste, là, il a commencé à reprendre vie, quoi. Et il a dit, mes enfants, reprenons François, faisons un journal, reprenons le rythme de François. Mais François aurait dû peut-être évoluer à ce moment-là. Et on a continué à faire le même journal qu'auparavant. Et c'est de mai 68 que sont nées une nouvelle presse, qu'est née une nouvelle presse, hein, je veux dire, dont Libération de Serge Ulli. Il y avait le gauchisme, les maoïstes, etc., qui ont évolué et qui sont devenus d'excellents journalistes. François a pris un coup de vieux quand cette presse est née, et en prenant un coup de vieux, il n'a jamais pu rajeunir, et François est mort de sa belle mort, quoi, est mort après une longue agonie.
Alors l'héritage.
Claude Maggiori, directeur artistique.
Peut-être simplement le rendre hommage à ce qui était à l'époque un grand quotidien, qui se définissait lui-même comme un quotidien populaire de qualité. Mais je pense, moi, que c'est à peu près tout comme héritage. Je crois que François était, lorsqu'on préparait, on réfléchissait à Libé, un modèle pour certains, dont mon camarade Serge Ulli, mais pas pour d'autres, dont moi. Pas du tout même. C'était même l'antithèse, parce qu'on considérait François comme un vieux quotidien à l'époque. Comme un quotidien qui avait eu sa grandeur, qui a eu sa grande époque. On avait de l'admiration pour Pierre Lazareff, parce que c'était un grand personnage qui avait su ériger la presse quotidienne à un très haut niveau, qui avait beaucoup d'influence auprès des politiques et des grands patrons et de tout ce qui pouvait compter comme homme de pouvoir en France. Mais comme modèle journalistique, ça nous semblait un modèle journalistique ancien, qui faisait partie du vieux monde, comme on disait à l'époque.
Claude Maggiori, De quoi fallait-il parler dont ne parlait pas François lorsque vous lancez, avec Serge Julie, Libération en 73?
La forme a pris à Libé une importance énorme parce qu'elle nous semblait mieux traduire une espèce de lame de fond qui nous faisait raconter ce monde qu'on disait nouveau, qui au fond n'a pas été tant que ça, mais à l'époque il nous apparaissait comme formidablement bouillonnant de toutes les contestations. Et on voulait inventer un quotidien qui exprimait ce rapport-là au monde. François nous semblait un truc ultra ringard, en fait. Serge Julie, en 81, lorsque j'avais mission de refaire la formule, lui, il avait arrêté le journal puisque ça n'allait pas, il m'a demandé de faire le François de gauche. Et en fait, j'ai pas du tout fait ça. Il me l'a dit, j'ai écouté, et puis j'ai estimé qu'il fallait pas du tout faire ça. Qu'il fallait faire presque l'antithèse, que j'ai appelé à l'époque le quotidien magazine. C'est-à-dire un quotidien qui d'abord n'était pas grand, qui était le plus petit format possible, ce qui était quand même très important. J'ai demandé à l'imprimeur de faire le plus petit format possible. Et François était un grand quotidien qu'on lisait en parcourant de la tête de haut en bas vers le centre, qu'on appelait le ventre, et puis les jambes. On avait une lecture comme ça panoramique. Libé, non. Libé était structuré par son pli. On tournait les pages. Et donc on a inventé l'article à la page, on a inventé les longues séquences photos, on a essayé d'inventer une autre façon qui nous appartenait et qui correspondait au public qu'on voulait toucher, de raconter ce monde qui bougeait. Ça n'avait rien à voir avec François, en fait. C'est pour ça qu'on a eu raison de ne pas faire le François de gauche. On aurait échoué si on avait fait le François de gauche. Parce qu'on aurait fait un journal vieux, simplement colorisé d'une autre idéologie. En fait, nous, on ne voulait pas être un journal populaire, au sens où on voulait avoir beaucoup de lecteurs. On voulait être de qualité, mais on voulait inventer une nouvelle façon d'être. Alors, évidemment, ça nous a porté quand même à 200 000 exemplaires. Ça a fait un énorme succès. Ça a produit une invention de beaucoup de journalistes qui ont inventé une façon d'écrire, une façon de faire des images. Donc je dirais que c'est pas comparable. Ça vient presque après. En fait, je crois que François avait déjà commencé son déclin lorsque Libé est sorti. Il était encore un journal qui était très haut en diffusion, mais il avait commencé son déclin justement parce qu'il s'appuyait sur des structures qui étaient des structures anciennes, sur des façons. Même son sommaire. Moi, je me souviens, en 81, on n'avait pas mis de rubrique. Il n'y avait pas politique, société, internationale. Parce qu'on disait tout est politique, donc il n'y a pas de rubrique. Ça n'a pas duré très longtemps. On a remis un peu de rubrique pour que l'auteur sert tout. Mais c'était cette volonté-là de montrer cet énorme maelstrom d'un monde qui bougeait tous les jours, qu'on voulait comprendre. En fait, on essayait simplement de retrouver une parole vraie. Parce qu'on trouvait qu'un certain nombre de journaux, dont François, n'avaient plus de parole, n'avaient plus de contenu au sens que ça ne correspondait plus à ce que nous, on voyait dans la réalité. On avait totalement raison à l'époque. C'est pour ça que ça a marché. C'est parce que toute une génération s'est reconnue dans la manière que nous avions d'être au monde et d'être en rapport avec les informations. Et c'est ça qu'on est arrivé à faire. C'est pour ça qu'on a inventé un truc. Qu'on a fait à un moment le plus beau journal du monde et qu'on a inventé un truc. Que depuis, pas mal de gens regrettent, quand même. Disons que c'était une grande époque.
C'était François, portrait d'un âge d'or du journalisme. Archivina, Marthe Laurent, Clotilde Fiot. Attachée de production, Christine Bernard et Alison Sinard. Prise de son, Arthur Gerbeau. Mixage, Alain Joubert. Réalisation, Guillaume Baldi. Un documentaire d'Alexandre Breton pour Sur les Docks.